Donc, je suis ici avec Antonia Arslan. Je prononce bien, oui. Et elle a écrit un livre, le titre en français, je ne sais pas, c'est...
Le titre en français, c'est... il a deux titres en français, parce qu'il a été, il avait été publié en septembre de 2006 avec le titre « Il était une fois en Arménie ». Mais maintenant qu'il est sorti le film, ils ont mis une autre couverture avec deux titres, celui-là et l'autre, c'est le titre du film « Le mât aux alouettes ».
Donc, il est sorti un film, il y a, je crois qu'en Belgique, il est sorti hier.
Oui.
Et c'est basé sur votre livre.
Et c'est un film qui est basé sur mon livre. Il a été fait par les frères Taviani, les régisseurs italiens qui sont tombés amoureux du film, du livre. Et puis, on m'a demandé à le faire. J'étais très contente parce qu'ils ont... Ils ont eu aussi des pressions, hein, mais ils l'ont fait quand même. Et j'en suis très contente. C'est un autre langage. Je dis tout le temps que ce n'est pas la même chose. Un livre, c'est un livre. Un film, c'est un film. Mais le film est réussi quand il sait faire une chose à part, quelque chose, mais respectant l'histoire, évidemment.
Et peut-être on peut parler un peu sur le livre. Donc, vous racontez l'histoire de votre famille pendant le génocide en Arménie. Mais c'est un roman, donc il y a une part fiction et une part vraie. Donc,
Oui, bien sûr. Vous savez, j'avais reçu ces histoires de mes parents, de mon grand-père, quand j'étais enfant. Et je sais qu'il y a des faits qui sont historiques. Et puis, tu dois, à ce moment-là, faire établir des connexions entre les faits. Par exemple, je savais que les enfants ont été sauvés dans le double fond d'une carrosse.
C'est vrai.
D'un carrosse. Et c'est vrai. Et ça est très aventureux, mais c'est vrai. Quand même, je dois expliquer comment ça est arrivé. Alors, ça, c'est évidemment des détails que tu dois trouver comme vraisemblables, mais tu ne sais pas s'ils sont exactement les vrais, s'il était un ou deux qui ont les appuyés qui ont été corrompus, par exemple, et si c'était exactement le chef du camp ou par exemple son aide, voilà. Mais ce n'est pas des choses importantes. Les choses importantes sont toutes vraies.
D'accord. Et donc, l'histoire raconte c'est surtout sur deux frères, Yervant, je prononce bien
Yervant,
qui est parti en Italie, et Sempat, qui reste en Anatolie. Et plus tard, donc, la première partie est l'histoire des deux, et ils veulent se rencontrer. Donc, Yervant veut retourner en Anatolie pour visiter. Mais j'ai trouvé le moment que Sempat est assassiné très très brusque. Donc la différence, c'était très poétique le début, et puis il y a la mort. Et bon, comment avez-vous pensé à faire de cette façon?
Non, j'ai pas pensé. Je suis seulement réussi à ouvrir la boîte de la mémoire, le puits de la mémoire. Et à ce moment-là, l'effort que je fais, et ça m'a pris beaucoup de temps, est de commencer. Mais quand j'ai commencé, les événements se sont déroulés l'un après l'autre, tranquillement. Et je sais que le début du roman, c'est une vie paisible en Anatolie avec ces gens qui sont... le frère de mon grand-père était un homme paisible, un homme très bon, et mon grand-père était bien plus agressif que son frère mineur. Mais leur vie était exactement comme ça. Et la tragédie est brusque parce que c'était brusque le moment du réveil. Ils n'avaient pas, ils auraient pu s'apercevoir des petits détails, des petites choses, mais ils ne voulaient pas. C'était leur pays, c'était le pays où ils vivaient depuis 2000 ans ou plus. Et alors, c'était leur pays. Ils n'avaient pas, ils étaient sourds aux premiers moments, signes de tragédie. On les voit dans tous les comptes rendus, dans tous les mémoires des survivants. On voit toujours la même chose. Nous étions comme ça, nous ne pensions à rien, et soudain, ça est arrivé. Et le soudain, ça signifie aussi des gens qui arrivent, des soldats qui arrivent au mât des Alouettes et qui tuent tout le monde, les mâles. Puisque la caractéristique de la tragédie arménienne est que les hommes, le destin des hommes est séparé du destin des femmes. Et les hommes sont tués tout de suite, et les femmes lentement dans le temps de la déportation.
Ben, ça m'a frappé que les femmes étaient très fortes. Donc les hommes étaient assassinés et elles décident immédiatement on doit sauver les enfants. Et donc les enfants ont vraiment survécu. Ils sont arrivés en Italie.
Oui, les enfants ont survécu, ils sont arrivés en Italie. Mais ça est l'histoire du deuxième roman.
Ah, donc il y a un deuxième roman.
Oui, je suis en train de le finir. Parce que j'ai réfléchi à l'histoire. Les enfants se sauvent. Donc oncle Zaret les abrite dans sa maison, mais pour une entière année, ils ne peuvent pas sortir de la maison. Et après ce temps, il réussit à lui donner des passeports faux et il s'embarque pour l'Italie. Mais la mère meurt. Et ça, c'est aussi historique. Elle meurt le premier jour du voyage. De cette façon, ces quatre enfants arrivent en Italie et ils arrivent dans une maison qui est pour eux totalement étrangère. L'oncle, oui, est là, mais ils ne l'ont jamais vu. La femme est une vénitienne de la noblesse vénitienne qui n'a pas de particulière compréhension pour eux. Et leurs cousins sont des jeunes bien élevés, italiens. Et alors, vous comprenez, c'est toute une histoire qui se déroule. Et puis, il y a le destin de Ismène et Isacco qui vont à Smyrne.
Oui, elle a joué un grand rôle aussi. Et aussi, ce que je trouvais très intéressant, c'était l'organisation des mendiants.
Mendiants, oui.
Donc, ils étaient vraiment organisés comme ça ou c'est par fiction de la...
Non, dans tout le Moyen-Orient, ils sont organisés. Parce que les mendiants sont une catégorie qui est respectée et tu choisis de faire le mendiant. C'est pas par hasard. À un certain moment de ta vie, tu décides de faire le mendiant. Et avec le mendiant, il y a aussi des sous-métiers, tu comprends. C'est-à-dire que tu es aussi un peu espion, un peu que tu peux faire des missions délicates. Hein? Et alors, oui, ils ont toujours été bien organisés.
Oui. Alors, c'est l'histoire de votre famille pendant le génocide. Et comme vous dites, c'était très brusque, c'était très soudain. Mais comment les Arméniens aujourd'hui sentent la politique de la Turquie autour de ça? Donc, ils ne reconnaissent toujours pas. Mais bon, et cette semaine, il y a eu des progrès. Mais que pensez-vous sur ça?
Vous voyez, je pense que la Turquie est à un moment de décision. Parce que continuer à nier, comme ils le font tous les ambassadeurs, tous les gens de l'État, on peut dire ça, les employés de l'État. C'est tout à fait stupide désormais. Les 96-17% des historiens de tout le monde a accepté qu'il y a eu un génocide. Que c'était quelque chose de programmé, c'était le premier du XXe siècle. L'inventeur du terme génocide, Raphaël Lemkin, qui était un juif de Pologne, a dit et a laissé écrit qu'il a établi le nom sur les Arméniens et sur les Juifs. Il a écrit, il a donné des interviews, on a retrouvé ces interviews. C'est pas à douter. Alors, à ce moment-là, ce gouvernement en Turquie doit reconnaître que l'autre gouvernement, il y a 92 ans, a fait ces choses abominables. Mais ce n'est pas ce ne sont pas eux les coupables. Alors, vous comprenez, c'est quelque chose d'un orgueil national de nation qui ne veut pas reconnaître ce que les autres ont fait. Alors, l'Allemagne a reconnu tout ce qu'elle a fait. L'Italie aussi, avec ses colonies, etc. Et les autres pays aussi. Alors, tu ne peux pas entrer dans l'Union européenne continuant à nier ce que ces autres ont fait. Mais ça, c'est logique. La façon dans laquelle ils ont continué à nier a quelque chose c'est une obsession. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas qu'on parle d'Arménie, qu'ils changeaient les noms des sites historiques d'Arménie. La ville de Ani, par exemple, dans l'est de l'Anatolie, qui était la capitale du règne d'Arménie. Et jusqu'à il y a quelques ans, il y avait écrit Ani, ville byzantine. Vous comprenez? C'est quelque chose de ridicule, il n'y a pas besoin. Si tu écris Ani, ville arménienne, ça ne fait aucune différence. Et alors, vous savez, les obsessions et les tripes sont difficiles à extirper. Mais j'espère que, probablement, à ce moment-là, il faudra qu'ils prennent des décisions sur la question de Chypre, sur la question du génocide des Arméniens et aussi sur les droits civils à l'intérieur du pays.
Parce que j'ai lu cette semaine dans le journal que le nouveau président veut changer la loi qui...
J'ai lu aussi. Il veut casser le fameux article 301 du code pénal de Turquie qui est contre les offenses à la Turkishness, la turquicité. Et alors, dans cela, tu mets tout ce que tu veux, si tu es un juge ou un policier qui veut le faire. Par exemple, le prix Nobel Pamuk a été non condamné. Ils ont suspendu la peine, mais il avait été condamné sur cet article. Mais il ne suffit pas d'enlever l'article 301, vous savez, parce qu'il faut aussi qu'il regarde bien, par exemple, les assassinats du journaliste arménien Hrant Dink en janvier 2007. L'assassinat du prêtre italien Santoro à Trabzon une année avant, les menaces qui touchent tout le temps aux chrétiens là-bas. Il faut que ça soit puni sévèrement avec la loi, parce que les minorités, qui sont très peu, minorités en Turquie, à ce moment-là, sont à peu près 120 000 personnes. En 1915, il était 4,5 millions. Alors, qu'ils puissent survivre, avoir ces petites églises et rester.
Donc c'est important qu'ils reconnaissent qu'il y a eu le génocide.
Oui, c'est le premier pas, vous savez, c'est le plus difficile à faire. Et parfois on me demande, mais pourquoi cette obstination sur quelque chose qui est arrivé 92 ans, il y a 92 ans. Il faut insister parce qu'il le dit. C'est une tragédie de le nier. Et c'est le premier pas, c'est le plus difficile, je crois. Le moment où il y a pas seulement Erdal ou Akçam ou peu d'intellectuels de Turquie, mais l'État qui dit non, ça a été fait et maintenant on ferme cette porte, on ouvre une autre question, je crois que c'est une chose importante parce que c'est d'extrême importance aussi morale.
C'est un peu incompréhensible pour des personnes ici en Belgique. Il y a donc des chiffres, il y a des documents dans des archives qui démontrent qu'il y a eu. Donc c'est très bizarre que jusqu'à aujourd'hui, ils ne veulent pas reconnaître.
C'est absolument bizarre. Si je vous dis que le 96 ou 17% et les autres historiens qui ne parlent pas du génocide arménien ont été payés. Parce que encore jusqu'à maintenant, l'État turc dépense des milliers de dollars, des millions de dollars pour éviter qu'on en parle. Achetant des éditions, faisant des pressions. Et vous savez que les pressions avec l'argent sont bien plus convaincantes. Et alors, je crois que c'est le moment de mettre un stop à toutes ces histoires. Et vous dites justement, il y a les archives sont pleines de témoignages. Des témoignages de l'époque, 1915. On n'a que regarder les journaux de l'époque. On n'a que écouter l'ambassadeur Morgenthau des États-Unis, qui était un juif, qui a essayé de tout faire et à la fin il est parti à fonder aux États-Unis le Near East Relief, qui a sauvé des milliers d'enfants qui ont été achetés à nouveau des Turcs qui leur avaient sauvé la vie, mais on les a achetés et reconvertis les pauvres. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est le moment pour faire ces choses. Les documents sont absolument des milliers et des milliers. C'est ridicule d'en parler encore, si vous voulez.
Et avez-vous senti vous-même de la pression quand vous avez sorti le livre ?
Non, je dois dire que le livre a eu un succès tellement immédiat en Italie que dans un mois, il est arrivé à la 6e édition. Maintenant, il est à la 22e. Mais dans ce moment-là, vous savez, ils ont été cueillis par surprise, je pense. Parce que dans d'autres occasions, dans les mêmes années, des pressions ont été exercées. Mais sur moi, non, je dois le dire.
Et le film a-t-il eu des critiques de la part de la Turquie?
Oui, ils ont essayé. Sur le film, oui, ils ont essayé. Mais les régisseurs, les frères Taviani étaient bien déterminés à le faire.
Ben, c'est très bien ça. Et donc maintenant, vous êtes professeur de littérature?
J'étais professeur de littérature italienne moderne à l'université de Padoue. Et maintenant, je suis retirée.
Vous êtes retirée. Vous avez le temps alors d'écrire. Mais j'ai lu quelque part que vous êtes inspirée par le poète
Varoujian, oui.
Oui,
oui, Varoujian est un poète extraordinaire. Et alors, en traduisant ses poèmes, j'ai eu quelque chose de... J'avais jusqu'alors une espèce de sensation d'Arménie, c'était nostalgie, c'était des vieux livres, c'était les discours des vieux. Mais avec Varouchan, j'ai entendu la fraîcheur de la vie en Anatolie en 1915. Vous savez, comme il était un fils de paysan, il a commencé à écrire ses collections de poèmes en disant que c'était le chant épique de la nouvelle Arménie. Et il n'y a pas de guerre là-dedans, il y a seulement la vie des champs, du semeur jusqu'au pain. Alors il avait ses poèmes dans sa poche quand il a été arrêté. Et quand il a été tué, on a mis son veston, dans un magasin militaire turc. Et un détective privé l'a découvert là, 5 ans après sa mort, en 1920. Il a trouvé le cahier avec les poèmes. Et on les a publiés posthume en 1921. Alors, l'histoire est aussi quelque chose d'extraordinaire. Mais les poèmes en soi sont un hymne à la joie, à la vie, à ces paysans avec le sueur qui est comme des gouttes, des larmes, des perles, des choses. C'est une chose tellement pleine de vie. Mais j'ai compris l'attrait de la terre d'Anatolie, les merveilles, les fruits, les fleurs, les montagnes, la plaine, la fameuse plaine d'or, the golden plain de la ville de Kharpert, d'où viennent mes parents. Et à ce moment-là, j'étais comme comblée. Voilà.
Donc vous avez retrouvé votre identité arménienne. Oui, oui. Pourtant, la première histoire donc, que vous allez avec votre grand-père fêter le jour de votre nom, je trouvais qu'il y avait des choses typiques arméniennes, comme votre tante qui apportait à manger et tout ça. Donc
Oui. Évidemment, ma tante nous apportait à manger tous les soirs. Nous sommes été élevés avec ces choses. Par exemple, si vous pensez au yaourt, en Italie, à ce moment-là, personne ne mangeait du yaourt. Et elle portait tous les soirs ces gros pots avec l'épaisse couche. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais si nous avions des hôtes, des hôtes, des amis, ils n'aimaient pas ça, évidemment.
Peut-être pour finir, comment pouvez-vous décrire l'Arménie aujourd'hui? Comment est la situation là-bas, les gens? Parce que c'est pas si longtemps, on en entend, que l'indépendance de la Russie.
L'indépendance est il y a 15 ans, 1991. Maintenant, je vous dis que ça, je ne suis pas un homme politique, il essaie de faire beaucoup de choses. Puisque depuis 1999, je suis allée la première fois et cette année, la quatrième fois. Et j'ai remarqué un progrès extraordinaire qui est dû probablement au fait que le pays est très petit et il y a beaucoup des aides de la diaspora, des aides de l'étranger, mais aussi qu'ils savent employer ces aides. Alors, hier, dans la capitale, est beaucoup améliorée, on a fait beaucoup. Et ils ont développé une vocation touristique exceptionnelle. Seulement de l'Italie, l'année dernière, je crois, j'ai entendu 8000 personnes sont allées. C'est pas peu, pour une petite. Et de la France, beaucoup, beaucoup plus, évidemment, puisqu'il y a cette grande communauté arménienne en France. Imaginez qu'en Italie, les citoyens d'origine arménienne sont à peu près 2000. En France, à peu près 2 millions. Alors, en proportion, vous comprenez. Et comme ils n'ont pas de matière prime, l'Arménie est très pauvre. Alors, dans les villes, on a commencé à voir quelque chose et à établir des fabriques. Dans les campagnes, ils sont beaucoup plus pauvres. Mais le sol est très fertile. Ils ne souffrent pas la faim. Voilà.
Donc, on va finir. Merci beaucoup. Et on attend avec impatience sur votre deuxième livre.
Merci à vous.